Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François bouscule les habitudes romaines. Il ne célébrera pas la messe du jeudi saint dans le cadre solennel de Saint-Jean de Latran, mais dans une prison. Le nouveau pape a reçu les Argentins de Rome à Sainte-Marthe de manière informelle et selon un haut prélat, il va agir au sein de la curie. Ce début de pontificat est bien sûr encore à la une de ce magazine. Au sommaire également, l'intronisation du nouvel archevêque de Canterbury, une journée de prière pour la Syrie organisée par Caritas à Rome et le récit bouleversant et inquiétant d'un évêque sur les exactions commises par les rebelles en Centrafrique. C'est donc dans une prison romaine pour mineurs que le nouveau pape a choisi de célébrer la messe de la scène du Seigneur, le jeudi saint, qui marque le début du Triduum Pascal, temps fort de l'année liturgique. Elle se déroulera le 28 mars à partir de 17h30 dans le centre de détention de Casal del Marmo. Dans la matinée, le pape aura présidé la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre. Thomas Chabol.
Traditionnellement, les papes se rendent à Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome, pour célébrer la messe de la scène du Seigneur. Mais le pape François fera autrement, dans un nouveau geste qui ne manquera pas de frapper les esprits. Depuis le début de son pontificat, il n'a cessé d'insister sur le rôle de l'Église à l'égard des plus pauvres et défavorisés. Comme le rappelle le bureau de presse du Saint-Siège dans un communiqué, cette célébration, qui est au cœur de la foi catholique, se caractérise par l'annonce du commandement de l'amour et par le geste du lavement des pieds. D'ailleurs, lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio avait l'habitude de célébrer cette messe dans une prison, un hôpital ou un hospice pour pauvres ou personnes marginalisées. À Rome aussi, centre de l'Église universelle, elle se déroulera sous le signe de la simplicité, tandis que les autres célébrations de la Semaine Sainte suivront le schéma habituel. Il faut dire que l'univers carcéral a occupé une place importante dans le ministère des derniers papes. Benoît XVI avait visité cette même prison le 18 mars 2007. Il avait célébré une messe dans la chapelle. Son homélie émouvante et intense avait eu un vaste écho. Le pape émérite avait commenté la parabole du fils prodigue devant un parterre de jeunes détenus et d'agents de la police pénitentiaire. Il les avait invités à être dans la joie parce que Dieu nous aime. Même quand on est privé de la liberté, disait-il, il faut que Dieu occupe toujours la première place dans notre vie.
Et dans un autre geste qui en dit long sur son style, le pape François a invité la communauté argentine de Rome mercredi pour un verre de l'amitié en toute décontraction. Averti au dernier moment, raconte l'agence Immédia, une cinquantaine d'Argentins, laïcs et religieux, ont pu rejoindre le Saint-Père dans une salle de la résidence Sainte-Marthe. Il aurait bien voulu inviter tout le monde à déjeuner, mais rien n'avait été préparé. À défaut de repas, les visiteurs ont pu tous saluer personnellement le nouveau pape, du président de la conférence épiscopale argentine au maire de famille, en passant par les prêtres, les religieuses et les laïcs de toute profession. Les gestes du pape François ont suscité beaucoup d'espoir dans le monde catholique. Le père Pedro est lui-même argentin, mais depuis une quarantaine d'années, il vit à Madagascar où il se bat aux côtés des plus déshérités, notamment des malgaches qui vivent dans une décharge près de la capitale. Pour son action, le père Pedro a été nommé pour le prix Nobel de la paix cette année. Avant même d'apprendre l'élection de son compatriote, il nous avait dit ce qu'il attendait du nouveau pape. Écoutez.
Parler des problèmes, celles que vous avez dans le Nord, c'est important. On n'est nulle part. Mais nous devons d'abord exister. Parce que si vous êtes mort, vous ne pouvez pas penser. Vous êtes mort. Hein? Beaucoup de nos frères sont en survie. Et quand vous êtes en survie, vous ne pouvez pas penser à tous les problèmes de société, problèmes moraux, problèmes de valeurs, celles que vous avez ici, que c'est très important, je ne nie pas. Et que l'Église doit être aussi devant, dans l'arène de tous ces problèmes-là. L'Église a quelque chose à dire, l'Évangile a quelque chose à dire à tous ces problèmes-là. Mais sachez que vous nous avez oubliés. Alors nous vous disons, mais laissez-vous rattraper un peu, attendez-nous un peu, hein? Parce que nous sommes dans la même terre, nous sommes dans la même famille, la famille humaine. Et quand nous serons ensemble encore derrière, c'est pas grave, parce que nous vivrions une vie décente, une vie humaine, comme les humains. L'Église, aujourd'hui, les nouveaux papes, doit prendre ce défi au sérieux et proposer des solutions aussi humaines et de partage pour les continents d'Afrique et Madagascar.
Comment ça va se concrétiser avec le nouveau pape pour vous? Qu'est-ce que vous demanderiez au nouveau pape?
Je demanderais au nouveau pape qu'il soit la voix de tous les êtres humains sur Terre. Parce que le pape, pour nous, c'est celui qui remplace le Christ. Et le Christ, il aimait tout le monde. Et le Christ, il était universel. Le Christ, il nous a donné un seul commandement. Un seul commandement. Aucune prescription de tenue, de vêtements, de nourriture, aucune prescription de ce genre-là. Il nous a dit seulement commandement, aimez-vous les uns les autres. Et Jésus a aussi dit qu'il y a deux commandements seulement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, et aime ton prochain que toi-même.
Et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour plus vous oublier alors?
Mais réveiller la conscience des pays riches. Réveiller la conscience des pays riches et donner que le Vatican donne l'exemple aussi. Bien sûr qu'on a dit beaucoup de choses sur le Vatican, on dit les richesses du Vatican, mais je peux dire que le Vatican aide les diocèses, tous les diocèses en Afrique et à Madagascar. Une aide que le Vatican, que le Saint-Père donne à toutes les diocèses, à beaucoup, des milliers d'écoles, des milliers de dispensaires qu'il donne, sans que ça se sache, sans que ça se publie. Il faut partager les richesses du monde que Dieu nous a données avec tous les frères et sœurs du monde entier. L'hémisphère sud de notre terre, il est pauvre. Et nous vivons même pas avec $1 par jour. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, vous ne pouvez pas vivre avec $1 nulle part dans le monde. Il faut qu'il y ait plus d'égalité, plus de justice envers nos frères citoyens de notre terre, notre planète. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir dans une vision planétaire. On ne peut plus voir seulement des visions européennes ou France seulement, ou l'Italie seulement. Il faut voir tout le monde.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. Et selon le cardinal Marco Ouellette, le pape François saura aussi réformer la curie. Le préfet de la Congrégation pour les évêques est optimiste quant aux capacités du nouvel évêque de Rome à prendre en main la situation. Pour le prélat québécois, il est urgent de retrouver une crédibilité morale. Or, le pape François est un homme d'expérience, complètement libre, indépendant. Il n'a aucun lien avec le Vatican et il va être aussi un réformateur. Dans une interview accordée au magazine religieux canadien Convivium, le cardinal Ouellette se dit certain que le pape François prendra des décisions. Il y aura bien quelques pressions, ça et là, dit-il, mais il va écouter et ensuite il décidera. Le pape François n'a pas été complice de la dictature dans son pays. C'est Adolfo Pérez Esquivel qui l'affirme. Lauréat en 1980 du prix Nobel de la paix, il a été reçu par le nouveau pape ce jeudi matin au Vatican. Le célèbre artiste argentin a été récompensé pour son travail en faveur de la non-violence et du respect des droits de l'homme en Amérique latine. Devant la presse, il a fermement rejeté les accusations de connivence avec la junte militaire argentine qui ont ressurgi contre le pape après son élection le 13 mars. Il n'a rien eu à voir avec la dictature, il n'a pas été complice de la dictature et il n'a pas collaboré avec elle, a-t-il dit en précisant qu'il avait privilégié une diplomatie silencieuse. À l'époque, il était supérieur provincial des jésuites d'Argentine. Il tentait d'avoir des nouvelles de disparus et de détenus, mais en agissant en coulisses. Toujours ce jeudi matin, le pape François a reçu en audience privée le nouveau patriarche chaldéen venu d'Irak, sa béatitude Louis Raphaël Ier Sacco. Vendredi, il s'adressera au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège et samedi, événement inédit, il doit rencontrer son prédécesseur Benoît XVI pour la première fois depuis sa démission spectaculaire le 28 février. Le pape émérite est retiré dans la résidence pontificale d'été à Castel Gandolfo près de Rome. C'est là qu'aura lieu cette rencontre. L'église anglicane a intronisé ce jeudi le 105e archevêque de Canterbury, Justin Welby. Le nouveau chef spirituel des quelques 80 millions d'anglicans dans le monde est un père de famille âgé de 57 ans. Ancien cadre de l'industrie pétrolière, il a été ordonné en 2003. Il succède à Rowan Williams qui a démissionné fin 2012 après 10 ans à la tête de l'église d'Angleterre. Dans un message de félicitations, le pape François assure le nouveau primat de ses prières et lui demande à son tour de prier pour lui. Le ministre ministère pastoral, écrit-il, est un appel à cheminer dans la fidélité à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape ajoute qu'il espère rencontrer l'archevêque de Cantorbéry dans un avenir proche et poursuivre les relations fraternelles et chaleureuses qu'entretenaient leurs prédécesseurs. Ces dernières décennies, le dialogue entre les églises catholiques et anglicanes a enregistré de nombreuses avancées malgré quelques moments difficiles. Des deux côtés, on espère faire fructifier cet important héritage. Le Saint-Siège était d'ailleurs représenté à la cérémonie d'intronisation par le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. À la veille de son intronisation, le nouveau primat de la communion anglicane a accepté de s'exprimer sur Radio Vatican. On l'écoute.
L'hiver œcuménique, si tant est qu'il existe, montre des signes vigoureux indiquant que le printemps arrive. L'œcuménisme, bien sûr, n'est pas qu'avec Rome ou avec le patriarche œcuménique, mais aussi avec les églises protestantes, et on a vu de très importants progrès se réaliser. Avec Rome, je pense qu'il faut œuvrer à différents niveaux. Il y a le niveau théologique, avec la commission anglicane catholique romaine, et c'est crucial parce qu'on ne peut pas diluer des questions de ce genre. Mais il y a aussi notre engagement pour la nouvelle évangélisation, la justice sociale, une spiritualité commune, la capacité de vivre de telle manière à ce qu'on commence à montrer clairement, visiblement, notre unité essentielle dans le Christ. Et dans ce sens, être en dialogue sur les questions théologiques. Il y a eu de très importants progrès. Regardez par exemple le rapport de la Commission anglicane catholique romaine sur le baptême, l'Eucharistie ou Marie. Ce sont des progrès notables.
Des propos recueillis par notre consoeur du programme anglophone, Philippe Aitchen. Le 4 février dernier, Benoît XVI avait adressé à Justin Welby un message de vœux dans lequel il évoquait le défi que représente, dans certains pays occidentaux, la volonté de reléguer le fait religieux dans le domaine privé et de l'empêcher d'intervenir dans le débat public. Les ministres de l'Évangile, écrivait Benoît XVI, doivent répondre à la soif de Dieu qui se manifeste dans la société et apporter la lumière du Christ dans les ténèbres de la vie des hommes. Un pays exsangue, des populations vulnérables jetées sur les routes de l'exode, détresse et dénuement. Voici le triste bilan qu'on peut dresser après 2 années de la crise syrienne encore irrésolue. Les besoins matériels des populations ne cessent de croître. Quant à la mobilisation spirituelle, elle doit plus que jamais se poursuivre. Ce jeudi soir était organisée à Rome une veillée de prière pour la paix en Syrie sous l'égide de Caritas Internationalis, suivie d'une rencontre avec Mgr Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep et président de Caritas Syrie. Les réunions de travail des Caritas Syrie, Liban, Jordanie et Turquie se sont en effet succédées cette semaine au siège de Caritas Internationalis à Rome. Objectif, échanger, coordonner les actions, essayer de trouver des réponses aux défis posés par la présence devenue problématique pour les pays d'accueil des réfugiés syriens. Najla Shada est directrice du Centre pour les migrants de Caritas Liban. Elle évoque au micro de Manuela Figi le travail effectué par ce département auprès de millions de Syriens réfugiés dans le pays. La situation y est de plus en plus dramatique. On l'écoute.
Peut-être il faut bien aussi dire que le Liban est le plus petit pays de la région, où nous sommes 4 millions d'habitants. En plus de ces 4 millions d'habitants, nous avons 1 million de réfugiés syriens. Donc, il y a bien sûr les réfugiés qui sont arrivés récemment, mais aussi les travailleurs migrants qui étaient au Liban avant, qui étaient aux alentours de 400 000, mais qui ont amené leurs familles aussi, leurs enfants. Donc, ce pays est vraiment maintenant surchargé avec toute cette population qui est sur son territoire. Nous avons aussi les réfugiés palestiniens et le Liban actuellement est le seul pays à accepter les réfugiés palestiniens de Syrie.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites pour venir en aide à toutes ces populations réfugiées ?
Caritas a plusieurs domaines d'intervention. Le premier, c'est l'assistance humanitaire, à travers laquelle nous aidons toutes les personnes qui arrivent nouvellement au Liban avec un petit kit de secours, donc un paquet d'aliments, en plus des non-food items, comme des couvertures, des matelas, donc des produits d'hygiène, selon les besoins de chaque famille. nous offrons aussi une aide légale pour pouvoir donc régulariser le statut, parce que les Syriens ont la possibilité d'avoir un visa d'une année au Liban. Actuellement, c'est un compromis qui a eu lieu avec le HCR. Donc nous payons les frais de ce séjour, qui sont de $200 par personne. Nous avons des aides au niveau du loyer. Donc, les familles les plus vulnérables sont aidées pour payer la location de leur maison.
Juste, vous dites la location, logement, etc. Ça veut dire que quand ces familles viennent, elles peuvent trouver tout de suite un logement ?
Au départ, elles pouvaient. Actuellement, ça devient de plus en plus difficile à trouver. Ce que les familles sont en train de négocier avec des propriétaires, c'est des immeubles en construction qui ne sont pas terminés et les propriétaires qui sont en train de louer des petites chambres pour les familles ou des garages. Donc, vous savez, les garages là où on met, c'est des conditions très difficiles, mais ils n'ont pas d'autre choix.
Parmi ces réfugiés, il y a également beaucoup d'enfants.
La moitié des réfugiés qui sont au Liban sont des femmes et des enfants. L'UNICEF a dit qu'il y avait environ 30 000 enfants actuellement non scolarisés même au Liban. Et Caritas, si vous voulez, dans ce même ordre, a pu scolariser 13 000 enfants dans les écoles publiques et a couvert le frais d'enregistrement. De même, Caritas a aidé 21 000 enfants au niveau des fournitures scolaires.
Qu'en est-il de la situation médicale de ces populations ?
La situation médicale est très difficile. Il y a beaucoup de maladies vu les mauvaises conditions d'hygiène qui se répandent. Donc aussi Caritas fait circuler ses cliniques mobiles à travers tout le pays pour pouvoir offrir des soins préventifs surtout. Et nous menons beaucoup des séances de sensibilisation sur la santé. Il y a une maladie, par exemple la leishmania, c'est une maladie de peau qui a été détectée par les équipes de Caritas dans la Beka depuis un mois. Et nous avons alerté les Nations Unies qui sont en train de trouver aussi des moyens pour combattre ce fléau.
Qu'en est-il de la situation psychologique de ces personnes ?
Beaucoup de familles sont traumatisées. Il y a beaucoup d'enfants qui sont aussi perturbés. Il y a beaucoup de violences conjugales dû à ce phénomène. Donc cette violence a augmenté d'une façon vraiment dramatique ces derniers mois.
Najla Chada, directrice du Centre pour les migrants de Caritas Liban. L'agence Vatican Fides rapporte les propos de l'évêque de Mangassou en Centrafrique sur les exactions commises par les rebelles du Séléka le 11 mars dernier dans cette ville. Ils ont volé les voitures de la mission, du petit séminaire et d'une paroisse. Ils ont détruit la maison des pères spiritains et celle des franciscaines. Ils ont pillé la maison du recteur du petit séminaire, l'atelier de menuiserie, le centre internet, le collège catholique, le dispensaire pédiatrique, la pharmacie, le nouveau bloc opératoire. Ils ont brutalisé la population, les prêtres et les religieuses. Ils ont une liste de personnes à abattre, en commençant par l'évêque. Les mosquées, les musulmans, en revanche, ont été épargnés. Monseigneur Aguirre Munoz pense que les rebelles veulent renverser le gouvernement pour instaurer une république islamiste. Nous avons assisté, raconte-t-il, à toutes sortes d'horreurs. Meurtres, enfants arrachés à leurs parents et emportés dans la forêt, villages incendiés, razzias. Les droits fondamentaux des personnes ont été piétinés sans scrupule. Une partie des objets volés aux catholiques ont été donnés aux commerçants musulmans pour qu'ils puissent les revendre. Les chrétiens sont terrorisés. Pour répondre aux revendications de la rébellion du Séléka, le président centrafricain François Bozizé a pris mercredi 2 décrets permettant de libérer les prisonniers politiques et de lever le couvre-feu. Et les gestes de solidarité se multiplient à l'égard de la communauté chrétienne de Lahore au Pakistan, qui était la cible il y a quelques jours de violentes attaques de la part des extrémistes musulmans. Une centaine d'habitations et deux églises ont été incendiées dans le ghetto chrétien de Lahore au cours d'une agression particulièrement sauvage. Caritas Pakistan a fourni des tentes, des logements provisoires, des vivres, des vêtements, des ustensiles et des médicaments, grâce notamment au soutien financier de Caritas Allemagne. De son côté, la communauté de santé Jidio assure la distribution de denrées alimentaires alimentaire et d'eau potable. L'administrateur apostolique de Lahore, Mgr Chou, a demandé au gouvernement de garantir la sécurité des minorités religieuses. Les congrégations religieuses et de nombreuses ONG ont une nouvelle fois réclamé une réforme de la loi sur le blasphème à l'origine du drame afin de décourager l'extrémisme religieux. Les chrétiens ont reçu le soutien de nombreuses organisations musulmanes, tandis que des élus ont critiqué les graves manquements des forces de l'ordre. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis.